إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on continue ce soir la lecture et l'explication du livre intitulé Fadlul Islam, le mérite de l'islam, qui a été écrit par l'éminent Cheikh, l'imam Mohammed ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au sixième chapitre que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé Chapitre sur ce qui est rapporté au sujet du fait de se réclamer d'autre que l'islam. Le Cheikh rahimahullah, à travers ce chapitre, il a voulu démontrer le jugement du fait de délaisser l'affiliation à l'islam pour s'affilier à autre que cela. C'est-à-dire qu'il incombe aux musulmans de s'affilier à cette religion et de se nommer par les dénominations religieuses qui nous ont été données, comme le fait de se dire musulman, croyant et serviteur d'Allah, ou toute autre appellation qui rejoint cela. Et le fait de délaisser ces appellations en s'affiliant à autre que l'islam ou à une chose qui s'oppose à l'affiliation à l'islam, alors ceci est interdit, comme le Cheikh rahimahullah ta'ala va nous le démontrer à travers les textes qu'il a cités dans ce chapitre. Il a donc commencé par mentionner la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 78 de Surat al-Hajj, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala Huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha. Il vous a déjà nommé muslimine, musulman. Il vous a déjà nommé muslimine auparavant, c'est-à-dire dans les livres précédents, les livres qui ont précédé le Coran, ainsi que dans celui-ci, c'est-à-dire ainsi que dans ce livre, dans le Coran. Donc on voit très clairement dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné explicitement comment il a nommé ses serviteurs qui suivent ses messagers alayhim salatu wassalam. Il les a nommés muslimines. Tous les suiveurs des messagers alayhim salatu wassalam qui les ont suivis sur la religion de vérité, chacun à leur époque, sont des muslimines, dans le sens où ils se sont soumis au message avec lequel sont venus ces messagers, qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser l'adoration de tout autre que lui. Comme on l'a vu dans un cours précédent, ceci est le sens de l'islam dans son sens général. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les livres qui ont précédé le Coran, il a appelé les suiveurs des messagers muslimines. Et dans le Coran également, il les a appelés muslimines. Ceci nous indique que le fait de délaisser cette appellation et se réclamer d'autre que l'islam en s'appelant autrement revient à sortir de l'appellation de l'islam. Et on va voir, incha'Allah ta'ala, plus de détails à ce sujet à travers ce que nous a mentionné l'auteur, rahimahullah ta'ala, comme hadith et comme explication de ceci. Et ce afin de comprendre ce qui est réellement visé par cette interdiction. Il a donc mentionné un premier hadith et a dit D'après Al-Harith, Al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous ordonne cinq choses qu'Allah m'a ordonnées. » Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne ici cinq choses et il mentionne que ces choses sont des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonnées. Il dit, concernant la première, l'écoute et l'obéissance. Ceci est la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne dans ce hadith. L'écoute et l'obéissance, c'est-à-dire le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur musulman. Et ce car la situation des musulmans ne peut être stable que par l'écoute et l'obéissance au gouverneur musulman. Car si on délaisse cela, les musulmans seraient divisés. Et pour se réunir, pour trouver l'union, il est indispensable de se réunir autour d'un gouverneur qui va diriger les affaires des musulmans. Et ce gouverneur, il ne peut exercer son autorité que par l'écoute et l'obéissance. Car si les gens qui sont sous son autorité ne lui obéissent pas, alors il ne pourra pas exercer son autorité comme il se doit. Et les musulmans ne pourront pas être unis ni trouver la stabilité. Donc l'écoute et l'obéissance font partie des choses qui ont très clairement été ordonnées dans les textes du Coran et de la Sunna. Et bien sûr, lorsqu'on parle d'écoute et d'obéissance au gouverneur, ce n'est pas une obéissance absolue, mais c'est une obéissance dans le convenable. Car si celui-ci ordonne un péché, il est évident que l'on ne va pas lui obéir dans ce péché. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Donc l'obéissance n'est que dans le convenable. Et celle-ci est une obligation, afin de concrétiser l'union des musulmans et l'unité de leurs paroles. Quant à celui qui n'écoute pas le gouverneur et ne lui obéit pas, alors en faisant cela, il se sépare du groupe des musulmans. Et celui qui se sépare du groupe des musulmans, comme on va le voir dans la suite du hadith, il a certes dénoué l'islam de son cou. C'est comme s'il avait retiré l'islam de son cou, à l'exemple de quelqu'un qui a un collier autour du cou et qui le retire. Telle est la situation de celui qui n'obéit pas au gouverneur musulman. On voit donc que ceci est une menace sévère et que la désobéissance au gouverneur n'est pas une chose insignifiante. Combien sont ceux aujourd'hui qui pensent que ceci est une chose anodine et qui pensent que sous prétexte qu'ils suivent un cheikh ou la fatwa d'un prétendu savant, ils peuvent se permettre de s'opposer aux ordres du gouverneur musulman et délaisser le groupe des musulmans suite à l'effort de réflexion et l'opinion erronée de leur leader ou de leur cheikh. À l'exemple de ceux qui, dans certains pays musulmans, dans lesquels les gouverneurs ont ordonné, comme vous le savez, suite à cette épidémie mondiale que nous avons connue à notre époque, nombre de gouverneurs ont ordonné que la prière en commun ait lieu dans les mosquées, en observant une certaine distanciation dans les rangs entre les prières. Et ceci a été approuvé par les grands savants de la communauté. À l'exemple du comité des grands savants du Royaume d'Arabie Saoudite, et parmi eux l'éminent cheikh et l'imam Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, ainsi que d'autres parmi les savants de tout le monde musulman qui ont approuvé ces décisions et ont considéré que la situation actuelle légitimait le fait que les musulmans observent une distanciation entre eux dans les rangs lors de la prière en commun. Et certaines personnes ont suivi un avis isolé, un avis de celui qu'ils ont pris pour leader, et se sont ainsi opposés au gouverneur musulman et à sa décision en refusant d'observer cette distanciation dans les mosquées. Et il n'y a pas de doute que ceci est une forme de transgression à cet ordre qui nous est venu dans le Coran et la Sunna authentique concernant le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur musulman. Et à supposer que cet avis qu'ils suivent est un avis à prendre en considération et qu'il ne serait pas permis d'observer cette distanciation dans les mosquées. À supposer cela, ceci ne leur permet pas de s'opposer aux ordres du gouverneur, ni de semer les troubles et la discorde dans les mosquées en refusant d'observer cette distanciation. Ceci ne justifie en rien le fait de s'opposer ouvertement aux ordres du gouverneur en semant la division parmi les musulmans. Et il n'y a pas de doute que ceci nous montre un penchant de ces gens pour la voie des Khawarij, la voie de ceux qui sortent de l'obéissance au gouverneur, et pensent que ceci fait partie de la jalousie pour la religion et de la fermeté sur la vérité, wal'iyadu billah, comme les premiers Khawarij qui ont tué les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qui pensaient avoir plus de ferveur pour la religion et plus de rigueur dans l'application des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens ont emprunté le même chemin, wal'iyadu billah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les ramener à la vérité et de nous préserver de l'égarement et de nous raffermir sur la voie droite jusqu'au jour de sa rencontre. Donc ceci est la première chose qui est ordonnée dans ce hadith, l'écoute et l'obéissance. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la lutte, c'est-à-dire la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce afin que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Et cette lutte, bien évidemment, elle a des règles. Ce n'est pas une chose désordonnée. Elle a lieu sous l'étendard du gouverneur musulman. Et ce qui est pratiqué aujourd'hui par les groupes Khawarij, à l'exemple de Daesh, d'Al-Qaïda, ou autres parmi les groupes qui ont cette idéologie déviante et qui sèment les troubles et le chaos dans nombre de pays parmi les pays musulmans, ou même encore dans les pays mécréants en y commettant des attentats, des meurtres ou autres, alors ceci ne fait en rien partie de la lutte sur le sentier d'Allah. Au contraire, comme l'ont mentionné nos savants, ceci fait plutôt partie de la lutte sur la voie du diable, wal'iyadhu billah. La troisième chose qui est ordonnée dans ce hadith et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, c'est la hijra, l'émigration. Et le mot hijra, en arabe, il vient du mot hajra, qui désigne le délaissement, le fait de délaisser une chose. Et dans la législation, la hijra, c'est le fait de délaisser une terre de mécréance pour se rendre dans une terre d'islam afin de fuir avec sa religion. Telle est la définition de la hijra dans la législation. Et c'est cela qui est visé. Le fait de quitter les terres de mécréance et de se rendre dans les terres d'islam afin de préserver sa religion. En effet, le musulman, il n'est pas possible pour lui de rester vivre au milieu des polythéistes et des mécréants alors qu'il a la capacité d'émigrer vers les pays des musulmans. Car celui qui reste vivre parmi les polythéistes et les mécréants, qu'il le veuille ou non, ils auront de l'influence sur lui. Ils auront de l'influence sur sa famille. Ils auront de l'influence sur ses enfants. Ils auront de l'influence sur sa croyance. Ils auront de l'influence sur ses mœurs. Ils auront de l'influence sur son caractère. Ils auront de l'influence sur ses comportements. Ils auront de l'influence sur sa manière de vivre. Et ainsi de suite. Car l'homme, il s'adapte, qu'il le veuille ou non, à la société dans laquelle il vit. Et il est influencé par son entourage. Même les éleveurs d'animaux, ils sont influencés par les animaux qu'ils élèvent. Regardez celui qui élève des moutons, il n'a pas le même caractère que celui qui élève des chameaux. Celui qui élève des moutons, généralement, il sera doux et calme, car le mouton est un animal qui est calme, contrairement au chameau, qui oppose souvent de la résistance, qui se montre parfois violent. Et ceci se voit même chez celui qui les élève. Alors que dire de celui qui vit au milieu des polythéistes, qui proclament jour et nuit leur polythéisme, leur mécréance, leur perversité, leur déviation morale dans les mœurs, dans les comportements et ainsi de suite. Il n'y a pas de doute que celui-ci, il va être influencé par tout cela, qu'il le veuille ou non. Et ceci fait partie des méfaits qu'il y a dans le fait de vivre parmi eux. Également, il se peut que les polythéistes empêchent le musulman de pratiquer sa religion comme il se doit. Ils lui empêchent de mettre en pratique les obligations de l'islam. Il l'empêche de proclamer haut et fort sa croyance et ses convictions. Ils vont l'empêcher, par exemple, le sacrifice, le jour de l'Aïd. Ils vont empêcher les femmes musulmanes de se voiler comme il se doit. Et ainsi de suite parmi les choses qu'ils empêchent aux musulmans. Donc tout ceci nous démontre que le musulman qui souhaite pratiquer sa religion ne peut pas rester vivre parmi eux. Il se peut même qu'il veuille contraindre les musulmans à la mécréance, comme en voulant contraindre les musulmans de dire que telle ou telle loi serait supérieure à la loi du Coran, wal'iyadhu billah. Et ceci est de la mécréance. Car les meilleures lois sont les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de loi équivalente et encore moins supérieure aux lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui vit parmi eux, il peut se retrouver contraint à dire que des lois sont supérieures à celles du Coran. Et ceci relève de la mécréance, wal'iyadhu billah. Donc il faut être conscient du danger qu'il y a dans le fait de vivre parmi les polythéistes. Et ceci nous démontre très clairement que c'est une obligation pour le musulman qui en a les capacités d'émigrer vers les terres d'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a adressé de sévères menaces à ceux qui n'émigrent pas alors qu'ils en ont les capacités, mais qui restent dans leur pays par amour de leur terre, ou amour de leur famille, ou amour de leurs biens, ou autre chose semblable. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, comme on le retrouve dans ce verset bien connu, dans Sourate An-Nisa, au verset 97, lorsqu'il dit, subhanahu wa ta'ala, « Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, qalu fima kuntum. قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes en délaissant la hijra. Les anges enlèveront leurs âmes en disant: Où en étiez-vous C'est-à-dire, où en étiez-vous dans la pratique de votre religion? Ils diront, nous étions impuissants sur terre. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? C'est-à-dire, si vous étiez incapable de pratiquer votre religion comme il se doit là où vous viviez, ne voyez-vous pas que la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala est vaste et que vous aviez la possibilité de quitter ces terres de mécréance pour vous rendre en terre d'islam afin de pratiquer votre religion comme il se doit, afin de vivre votre religion au quotidien, afin de donner à vos enfants une éducation islamique? Ne voyez-vous pas que la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala est vaste? Et médite sur le fait que lorsque ce verset a été révélé, la terre d'islam vers laquelle les musulmans étaient ordonnés d'émigrer n'était autre que Médine, une petite ville de la péninsule arabique. C'était la seule terre d'islam. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifiée de vaste. Il a dit, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Alors que dire aujourd'hui où nombreux sont les pays musulmans, d'est en ouest, alhamdulillah, et qu'il est possible aux musulmans d'aller dans un de ces pays parmi ceux qui lui sont facilités. D'autant plus si celui détient la nationalité d'un de ces pays, qu'il a des origines d'un pays musulman. Qu'est-ce qui l'empêche de retourner dans son pays et aller vivre honoré parmi les musulmans? Mais non. Nombre d'entre eux préfèrent vivre humiliés, avilis, rabaissés, au détriment de la pratique de leur religion. Pourquoi? Pour des biens vils de ce bas monde, wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset, فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Est-ce que tu te rends compte qu'ici, Allah subhanahu wa ta'ala menace du feu de l'enfer celui qui vit parmi les polythéistes alors qu'il a les capacités d'émigrer. Il est sous la menace du feu de l'enfer. Mais je ne peux pas partir parce que dans tel pays, les rues sont sales. Ou dans celui-ci, les hôpitaux ne sont pas assez développés. Ou alors, dans les magasins, je ne trouve pas tel et tel produit. Je n'ai pas tel et tel confort. Il y a des trous sur les routes. Subhanallah. Pense à ce moment où les anges vont retirer ton âme. Quelle sera la valeur de ces choses que tu as fait prévaloir sur ta religion? Quelle sera la valeur de ces hôpitaux ou de ces routes ou je ne sais quoi? Ils n'auront plus aucune valeur. Wallahi, celui qui est plongé dans l'enfer un instant, il oubliera tout bienfait dont il a pu jouir dans ce bas monde. N'oubliez pas que la vie est éphémère. Le temps est très court. Certains se projettent sur des années. Ils font des projets qu'ils n'ont peut-être jamais atteindre. J'attends de construire ma maison, j'attends d'ouvrir mon commerce, et ainsi de suite. Et pendant ce temps, il vit dans un HLM, avec des vendeurs de drogue en bas de l'immeuble, et autres péchés qui sont faits ouvertement. Mais pour émigrer, il veut construire sa maison, avoir son commerce, avoir sa voiture, et ainsi de suite. Allah musta'an. Et tout ceci, comme l'ont mentionné les gens de science, en raison de l'amour de ce bas monde. Donc vous avez vu que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il menace sévèrement ceux qui délaissent l'émigration, qui délaissent la hijra, alors qu'ils ont les capacités d'émigrer. Et inversement, au verset 100, qu'est-ce qu'il dit? وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maint refuge et abondance. Allahu Akbar. Les gens restent dans les pays de mécréance sous prétexte de profiter de biens vils de ce bas monde. Et ils délaissent cette promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait à tout muhajir. Celui qui émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maint refuge et abondance. Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté garant de t'accorder ta subsistance si tu émigres sur son sentier. Fais les causes et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Cesse de craindre la pauvreté. Cesse de craindre le manque de ceci, le manque de moyens ou je ne sais quoi. Place ta confiance en ton Seigneur subhanahu wa ta'ala qui t'a promis sur terre maint refuge et abondance. Et combien de muhajirs avons-nous vu émigrer avec peu de moyens et Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés? Ce n'est pas un ou deux. Wallahi, je pourrais mentionner des dizaines d'exemples. Des frères qu'on a vus de nos yeux émigrer avec peu de moyens et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité, honoré, car ils ont cru en cette promesse. Ils ont su que ceci est la parole du Seigneur de l'univers, qui dit, tiens, la royauté des cieux et de la terre, qui administre tout dans cet univers. Tous les trésors de ce monde, ils appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant, il se doit de croire en la promesse de son Seigneur, placer sa confiance en lui et émigrer afin de sauver sa religion et vivre honoré parmi les musulmans. Au lieu de vivre dans la gêne, à se cacher pour pratiquer sa religion, à chercher toujours des moyens de se faire accepter ou je ne sais quoi. Non. Pars vivre dans les pays musulmans avec les tiens. Tu seras honoré, bi'idhnillahi ta'ala. Et tu auras ainsi accompli cette noble obligation pour laquelle tu seras récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas et dans l'au-delà. Et tu dois avoir la certitude de cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite: وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint, c'est-à-dire la mort, elle l'atteint sur la route, il n'arrive pas à atteindre la terre vers laquelle il voulait émigrer, sa récompense incombe à Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. À partir du moment où il sort, qu'il est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il n'arrive pas jusqu'à cette terre et qu'il meurt sur la route, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner sa récompense. Ceci nous montre donc le mérite immense de la hijra. Quoi qu'il en soit, on retient ici que la hijra est une obligation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonnée, comme il est venu très clairement dans ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Je vous ordonne cinq choses qu'Allah m'a ordonné, parmi elles la hijra. Donc ceci était une parenthèse à ce sujet, car ce sujet est d'une grande importance pour nous et c'est pour cela que j'ai tenu à le développer. La quatrième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans ce hadith, c'est de rester avec le groupe, c'est-à-dire le groupe des musulmans, de ne pas s'isoler des musulmans, car en se réunissant sur le Coran et la Sunna, les musulmans trouvent ainsi leur force. Quant au fait que tu t'isoles, que tu te sépares du groupe, alors tu te mets ainsi en danger et tu mets ta religion en danger. Car le loup à qui il s'attaque à la brebis égarée, celle qui est loin du troupeau. Regardez le mouton. Lorsqu'il est seul face à un loup, il ne peut rien faire, il ne peut pas se défendre. Mais lorsqu'ils sont en groupe, le loup ne s'en approche pas. Mais s'il en voit un qui se sépare du groupe, alors c'est celui-ci qu'il va attaquer. De la même manière, le musulman, lorsqu'il se sépare du groupe des musulmans, il se met en danger. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans la suite du hadith: Certes, celui qui se sépare du groupe, qui se sépare d'Al-Jama'a, d'un empan, même si ce n'est que d'un empan, il a certes dénoué l'islam de son cou. Comme je vous ai dit, comme s'il avait quelque chose autour de son cou et qu'il l'a retiré. Pourquoi? Car il s'est séparé du groupe. D'un empan seulement. On ne parle pas de ceux qui se séparent totalement de l'islam, qui apostasient et qui suivent une autre religion, wal'iyadu billah. Mais celui qui se sépare du groupe des musulmans, d'un empan, il a certes dénoué l'islam de son cou. Donc le musulman, il doit rester avec le groupe des musulmans, rester uni avec les musulmans, et ne pas se séparer d'eux, ou pire encore, lever les armes contre les musulmans comme le font les Khawarij, ou bien encore, adopter l'idéologie des Khawarij, en appelant les gens à s'opposer au gouverneur, à leur désobéir, et ainsi de suite, même si celui-ci ne porte pas les armes, ce qu'il fait relève de la méthodologie des Khawarij. Qu'il faut prendre garde à cela. Celui qui se sépare du groupe d'un empan a certes dénoué l'islam de son cou, sauf s'il revient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sauf s'il revient, c'est-à-dire sauf s'il se repent à Allah. Et ceci nous montre que la porte du repentir est ouverte. Celui qui a été trompé par une personne égarée, celui qui s'est laissé leurrer par la notoriété d'une personne affiliée à la science, et qu'il l'a suivi dans ses fatwas erronées, ces fatwas qui s'opposent aux fatwas des grands savants de la communauté, et qui s'est ensuite rebellé contre le gouverneur musulman et s'est opposé à ses ordres, ouvertement, en semant la discorde et la division entre les musulmans. Alors celui-ci, la porte du repentir, elle est ouverte, tu ne dois pas désespérer. Que l'orgueil ne te laisse pas penser que tu dois rester sur cet égarement, non, reviens à la vérité. Reviens au Coran et à la Sunna. Reviens aux orientations des savants qui sont basées sur le Coran et la Sunna. Et délaisse cette personne qui t'a écarté de la voie droite. Repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala, car la porte du repentir est ouverte. Tu en as encore l'occasion tant que tu as encore envie. La cinquième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith est celui qui donne une appellation de la jahiliya, de la période pré-islamique. Il fait certes partie des pierres de l'enfer. Donc ceci nous démontre que le musulman, il est obligatoire pour lui de se désavouer de tous les préceptes pré-islamiques, des préceptes de la jahiliya. Il ne doit pas s'assimiler aux gens de la jahiliya. Car les gens de la jahiliya, les gens d'avant l'islam, ils étaient sur le kufr, ils étaient sur la mécréance, sur l'égarement. Donc, on ne doit pas adopter leurs préceptes, ni adopter leurs croyances, ni adopter leurs mœurs, ni adopter leurs comportements, leurs conduites. Mais on doit délaisser tout cela. Et ce qui est visé par la jahiliya, c'est l'époque qui a précédé l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, son envoi a mis fin à la jahiliya, c'est-à-dire à la jahiliya de manière générale. On ne peut plus dire que les gens sont dans la jahiliya aujourd'hui. Ceci n'est pas permis car il y a parmi eux le Coran et la Sunna. Donc il n'y a plus de jahiliya générale. Toutefois, il se peut qu'il reste certaines caractéristiques de la jahiliya chez certaines personnes ou dans certains pays, dans certaines contrées, dans certaines tribus, ainsi de suite. À l'exemple de ces caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith en disant que celles-ci font partie des caractéristiques de la jahiliya et que les gens de sa communauté ne délaisseront pas. Parmi elles, le fait de se vanter de ses origines, de se vanter de ses ancêtres, ou le fait de dénigrer la lignée d'une personne, le dénigrer en fonction de ses origines, en fonction de ses parents, en fonction de sa couleur. Ceci fait partie des préceptes de la jahiliya. Encore le fait de se lamenter suite à la mort d'un proche. Tout ceci fait partie des choses de la jahiliya qu'il est obligatoire pour le musulman de délaisser. Et notamment tout ce qui concerne les origines, les différences de pays, de contrées, de couleur de peau et ainsi de suite. Le musulman, il ne doit pas se fanatiser pour cela. Mais les musulmans, ils sont comme un seul corps. Il n'y a pas de différence entre un musulman et un autre musulman si ce n'est par la piété. Ce n'est pas nos origines qui nous différencient. Ce n'est pas nos couleurs de peau, ce n'est pas nos tailles ou autre que cela, mais ce qui nous différencie, c'est seulement la piété. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ses serviteurs pieux. En dehors de cela, nous sommes tous musulmans et nous devons être comme un seul édifice dont chaque partie renforce l'autre. Et nul parmi nous ne doit se fanatiser pour ses origines, ou se fanatiser pour son gouverneur, ou se fanatiser pour son cheikh, ou autre chose semblable. Tout ceci fait partie des préceptes de la jahiliya. Mais le musulman, la chose à laquelle il s'attache, ce sont les enseignements du Coran et la Sunna. Il accepte la vérité qui est prouvée par les textes du Coran et de la Sunna. Que celle-ci soit prononcée par une personne de son groupe ou une personne d'un autre groupe. Que celle-ci soit prononcée par son cheikh devant lequel il est émerveillé ou par un autre cheikh, une autre personne de science ou un étudiant. Il accepte la vérité quelle que soit la personne qui lui expose, à partir du moment où ce qui lui est exposé est conforme au texte du Coran et de la Sunna. Et il délaisse toute forme de fanatisme, car ceci s'oppose à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Et tous les préceptes de la jahiliya, il est obligatoire pour le musulman de les délaisser, de s'en écarter. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a écrit un livre très intéressant à ce sujet. Un livre qui s'intitule Masailul Jahiliya, les préceptes de la période pré-islamique. Et dans ce livre, il a mentionné plus de 120 préceptes parmi les préceptes de la période pré-islamique, afin que le musulman en prenne connaissance et qu'il puisse s'en écarter. Et par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous avons lu ensemble cette épître l'an passé sur cette radio. Et les enregistrements sont encore disponibles sur le site An-Nasiha et vous pouvez les retrouver pour plus de détails à ce sujet. Et je vous invite à écouter ces cours et à profiter de ce livre qui est un livre très profitable. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ici, est celui qui donne une appellation de la jahiliya. Il fait certes partie des pierres de l'enfer et ceci est une menace sévère. Car s'il fait partie des pierres de l'enfer, cela signifie qu'il fait partie des gens de l'enfer. Pourquoi? Car il a lancé un appel parmi les appels de la jahiliya. Il s'est affilié à autre que l'islam. Il s'est réjoui d'une appellation autre que l'appellation de l'islam. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit cela, un homme a dit, ô messager d'Allah, même s'il prie et il jeûne, c'est-à-dire même s'il prie et il jeûne, il fera partie des pierres de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, même s'il prie et s'il jeûne, il fera partie des pierres de l'enfer. C'est-à-dire qu'il mérite le châtiment en raison de ce défaut qu'il y a en lui. Car le croyant, il se peut qu'il soit châtié en enfer en raison de certains péchés, même s'il ne mécroit pas. Même s'il fait des péchés moindres qu'à la mécréance, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala le châtie pour cela. Bien qu'au final, il entrera au paradis en raison de sa foi, il se peut qu'il soit châtié wal iyad billah. Donc ceci est une menace. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Mais nommez-vous par l'appellation qu'Allah vous a donnée, qui vous a nommé les musulmans, les croyants, serviteurs d'Allah. Et ce hadith est rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi qui a dit: C'est un hadith hasan sahih. Donc on voit clairement dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous attacher à cette appellation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Il nous a appelés les musulmans, les muslimines. Il nous a appelés les croyants, les mu'minines. Il nous a appelés ibadallah. Donc, il incombe aux musulmans de ne pas délaisser ces appellations. Et ceci sous-entend l'interdiction de s'affilier à autre que l'islam, ou de se nommer par une appellation autre que celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à ses serviteurs, ou autre que celle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonnée. Ou une appellation qui ne revient pas à une de ces appellations. Ceci est interdit. Quant à l'appellation de l'islam, l'appellation de la foi, tout ceci a été mentionné dans le Coran. Et tout ce qui revient à ces appellations est permis. Comme le fait de se dire sunni, partisan de la sunna. Ceci est permis, car ceci revient à l'appellation de l'islam. Également, le fait de se dire salafi. Ceci revient à l'appellation de l'islam, car qui sont les salafs? Les salafs, ce sont les musulmans des premiers siècles. À leur tête, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, puis ceux qui les ont suivis parmi leurs disciples. Donc, en se disant salafi, je m'affilie au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons. Je ne sors donc pas de l'appellation de l'islam. Comme certaines personnes parmi les gens des passions et de l'égarement essayent de le sous-entendre en mentionnant ce verset. Ils disent: pourquoi vous vous dites salafi alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, wa sammakumul muslimin. Il vous a déjà nommé musulman. Dites que vous êtes musulman, cela suffit. Non, nous sommes musulmans. Mais nous sommes aussi salafis. Nous suivons le Coran, la Sunna, selon la voie des pieux prédécesseurs, la voie de nos salafs, qui sont le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qui sont ceux qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a ordonné de suivre. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, « وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ Et quiconque se sépare du messager, après que la vérité lui soit parvenue, et qui suit une voie autre que celle des croyants. Qui sont les croyants ici? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Donc celui qui se dit salafi et qui est véridique dans cette appellation, qui n'a pas pour but de se vanter, ou d'utiliser cette appellation mensongèrement comme beaucoup le font aujourd'hui, wal iyadu billah. Qui se dit salafi mais qui s'oppose à la salafia et au fondement de la salafia. Alors il n'y a pas de gêne en cela, si cette appellation est véridique. Il n'y a pas de gêne à mentionner cette appellation en cas de besoin. Et ceci ne s'oppose pas à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre hadith et il a dit on trouve dans l'authentique, c'est-à-dire ici l'authentique d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: Celui qui se sépare du groupe d'un enfant puis meurt, sa mort relève de la jahiliya. Donc ceci est également un encouragement à rester accroché au groupe des musulmans. Car celui qui s'en sépare d'un enfant, c'est une petite distance. C'est-à-dire que la moindre opposition et séparation du groupe des musulmans fait que la personne, si elle meurt sans s'en repentir, elle meurt d'une mort qui relève de la jahiliya. Le musulman doit donc rester accroché au groupe des musulmans. Et comme on a dit, ceci nous montre que la porte du repentir est ouverte, car le châtiment, il n'est que pour celui qui meurt de cette manière. Quant à celui qui se repent, qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui revient à la droiture, et reste avec le groupe des musulmans, alors Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de celui qui se repent. Et certes, celui qui se repent est comme celui qui n'a pas de péché. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit: On y trouve aussi, c'est-à-dire dans le Sahih, dans les authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: Est-ce un appel de la jahiliya alors que je suis parmi vous? Donc ce hadith, il a un contexte. C'est que lors d'une bataille, il y a deux jeunes parmi les compagnons qui se sont combattus. L'un d'entre eux faisait partie des muhajirines et l'autre des ansar. Donc, lorsqu'ils ont commencé à se disputer, celui qui faisait partie des Muhajirines, des émigrés, il a appelé les Muhajirines. Il a dit: Oh les émigrés! C'est-à-dire: Oh les émigrés, venez me secourir. Et celui qui faisait partie des Ansar, il a dit: Oh les Ansar! C'est-à-dire: Oh les Ansar, venez me secourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a donc blâmés pour cela. Et il a considéré cet appel comme étant un appel de la Jahiliya. Est-ce un appel de la Jahiliya alors que je suis parmi vous? Alors que le fait de s'affilier aux Muhajirin pour celui qui est un Muhajir, ceci est légitime. Cette appellation, elle a été mentionnée dans le Coran, également l'appellation des Ansar. As-sabiqun al-awwalun min al-Muhajirin wal-Ansar. Allah subhanahu wa ta'ala a fait leurs éloges dans son noble livre. Toutefois, le fait d'appeler les uns contre les autres, ceci est interdit et ceci relève de la jahiliya. Comme si une personne originaire d'un pays est en conflit avec une personne originaire d'un autre pays. Alors il va dire à ceux de son pays, venez me soutenir, sous prétexte qu'ils sont du même pays que lui. Ceci n'est pas juste. On soutient celui qui est sur la vérité. Quant à celui qui est sur le faux, on le soutient en l'empêchant de commettre le faux. On ne va pas le soutenir de manière absolue sous prétexte qu'on a les mêmes origines que lui. Ou comme on le retrouve chez certains jeunes musulmans aujourd'hui qui se soutiennent les uns des autres sous prétexte qu'ils viennent du même quartier. Ils vivent dans le même bâtiment ou dans la même rue. Alors ils s'allient en fonction de cela. Et de la même manière en fonction des origines. Les gens vont s'allier les uns les autres en fonction du pays duquel ils sont originaires. Et se diviser de cette manière. Et ceci est présent au sein de la communauté. Et ceci fait partie des caractéristiques de la jahiliya. Notre union, elle doit être seulement sur la vérité. Sur le Coran et la Sunna, et tout ce qui s'y oppose doit être rejeté, même si cela vient de quelqu'un qui a les mêmes origines que toi, même si cela vient de quelqu'un de ta famille, même si cela vient de quelqu'un de ton quartier ou un de tes amis. Tu dois le rejeter, tu dois le blâmer à partir du moment où cela s'oppose au Coran et à la Sunna. Et la vérité, tu dois l'accepter, même si elle vient de quelqu'un qui n'est pas de ton pays, même si elle vient de quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas. À partir du moment où c'est la vérité, tu es obligé de l'accepter. Beaucoup de gens aujourd'hui, parfois, ils rejettent la vérité. Pourquoi? Car elle leur est présentée par une personne qu'ils n'apprécient pas. Alors ils rejettent la vérité. Lui, je ne l'aime pas, donc je n'écoute pas ce qu'il dit. Ceci fait partie des caractéristiques de la jahiliya qui doivent être délaissées. Il n'y a pas de différence entre les musulmans selon leur couleur de peau ou selon leurs origines. Allah subhanahu wa ta'ala, elle dit dans son noble livre, Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. La seule différence qu'il y a entre nous, c'est par la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus honoré, le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus pieux parmi vous. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a mentionné ensuite une parole de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, en explication de ce hadith. Et il a dit, Abu l'Abbas a dit, donc Abu l'Abbas c'est la kunya de Cheikh l'Islam, tout ce qui sort de l'affiliation à l'Islam et au Coran, comme à la lignée, au pays, à l'école, c'est-à-dire au madhhab, ou à la voie, à la tariqa, fait partie des appellations de la jahiliya. Comme on a dit, certaines personnes, ils se vantent et se glorifient en fonction de leurs origines. Et ils s'allient en fonction de leurs origines. D'autres s'allient en fonction de leur madhhab. Celui-ci est hanafi, l'autre est maliki, l'autre est shafi'i, l'autre est hanbali, et ainsi de suite. Ils se fanatisent pour leur école. Ils refusent tout ce qui s'oppose à leur école, même si cela est basé sur les textes du Coran et la Sunna. Non, moi je suis Maliki, je ne prends que d'un Cheikh Maliki. Je suis Hanbali, donc je ne pose mes questions qu'à un Cheikh Hanbali. Et je n'accepte rien d'autre que cela. Et quand ils posent des questions, ils ne disent pas qu'est-ce qui est légiféré dans telle ou telle situation. Ils disent quel est le madhhab dans telle situation. Que dit le madhhab au sujet de la prière de quelqu'un qui fait ceci et cela. Et ceci est du fanatisme. Le musulman, il doit chercher la vérité. Il doit chercher ce qui correspond aux preuves du Coran et de la Sunna. Que ce soit dans le madhhab que tu as étudié ou dans un autre madhhab. Tous ces savants auxquels se réfèrent les fanatiques des écoles juridiques, ce sont tous nos imams, alhamdulillah. Ce sont tous des savants de Ahl Sunnah, que ce soit Abu Hanifa, Al-Shafi'i, Malik ou Ahmad. Ce sont tous nos imams. Nous ne devons pas donc nous diviser les uns les autres en disant celui-ci est Hanafi, celui-ci est Hanbali, celui-ci est Maliki, ainsi de suite. Et en faire une cause de discorde et de division entre nous. Il n'y a pas de mal à étudier la science de ces écoles, à apprendre la science selon une de ces écoles, mais sans fanatisme. Et on se doit de suivre les preuves. À partir du moment où la preuve nous apparaît, que la vérité nous apparaît, même si elle ne se trouve pas dans notre école, on se doit de l'accepter. On ne doit pas faire preuve de fanatisme. Également, le cheikh nous dit, ou à la voie, à la tariqa.
comme les voies soufies, les confréries soufies, qui ont chacun une voie différente, chacun un gourou, chacun un cheikh. Et ils se fanatisent pour leur confrérie, comme al-Naqshbandiya ou al-Tijaniya, al-Burhaniya, al-Qadiriya, et ainsi de suite. Chacun a sa voie, chacun a sa confrérie. Ils ont de nombreuses confréries, ils sont beaucoup divisés chez les soufis. Et tout ceci fait partie des appellations relevant des appellations de la Jahiliya. Car ces appellations sont contraires à ce qui est venu dans le Coran et la Sunna. Et tout ceci fait partie de la ruse du diable pour diviser les musulmans. Et l'obligation pour les musulmans, c'est d'être qu'un seul groupe, de s'unir sur la vérité et d'œuvrer en fonction de ce qui est mentionné dans le livre d'Allah et la Sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala. Ensuite, le cheikh Abu l'Abbas ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, dit pour expliquer cela, en effet, lorsqu'un muhajir et un ansar se sont disputés, et que le muhajir a dit « Oh les muhajirines » et le ansar a dit « Oh les ansar », le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Est-ce un appel de la jahiliya alors que je suis parmi vous ?» Et il s'est sévèrement mis en colère pour cela. Alors que celui-ci a appelé les muhajirines et l'autre a appelé les ansar, qui sont les meilleurs hommes que la terre ait portés après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère à qualifier cet appel d'appel de la jahiliya. Car on ne doit pas diviser les musulmans de cette manière. On ne doit pas les opposer les uns aux autres. Car ceci fait partie des préceptes de la jahiliya. Quant au fait d'avoir une appellation qui est véridique et qui n'a pas pour but la vantardise mais la simple information, alors dans certains cas cela peut être permis. Comme quelqu'un dit, je suis algérien, je suis marocain, je suis sénégalais, je suis tunisien, je suis français ou je ne sais quoi. Si cela est fait dans le simple objectif d'informer de son origine, il n'y a pas de gêne en cela. Mais s'il dit cela pour se vanter de ses origines, en pensant que sous prétexte qu'il est de cette origine, il est meilleur que les autres, et qu'il est plus noble que les autres, et qu'il est meilleur que ceux qui ne sont pas de cette origine, alors ceci est interdit, et ceci relève des préceptes de la jahiliya. Donc on fera la distinction entre celui qui informe de cette affiliation à un pays ou une contrée, à titre informatif, et celui qui le fait par vantardise, en pensant qu'il est meilleur que les autres. Ceci est donc le résumé de ce que l'on peut mentionner à ce sujet concernant ce chapitre. Et on verra dans le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, le chapitre suivant qui concerne l'obligation d'entrer en islam totalement. On a vu le chapitre sur l'obligation d'entrer en islam, mais celui-ci concerne l'obligation d'entrer en islam totalement. On va donc s'arrêter là pour ce soir. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم